À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Françon, metteur en scène.
Cinquième épisode, l'art de la juste représentation. Bonsoir Alain Françon.
Bonsoir.
Pour cette dernière émission, j'aimerais que nous parlions de mise en scène, de votre rapport au texte, de votre rapport aux acteurs, de la façon dont vous travaillez. Pour commencer, je l'ai intitulé « L'art de la juste représentation » parce que je crois que vous aimez ce mot « juste ». Alors qu'est-ce qu'une juste mise en scène ou qu'une mise en scène juste ?
Je pense que c'est une mise en scène qui rend justice au texte, puisque le mot « juste », en fait, c'est... justice, rendre justice au texte. Donc ça veut dire travailler le texte dans, pas seulement dans le sens dont on en a parlé de ça, mais plutôt dans sa cohérence et surtout dans sa matérialité. Une des choses justement sur laquelle on a beaucoup travaillé avec Michel Vienaver, c'est ce qu'on appelait la partition, c'est-à-dire prendre un texte non seulement dans sa cohérence, mais prendre un texte aussi dans sa matérialité sonore, par exemple. Donc, je me souviens, la deuxième fois où j'ai monté Les Voisins, Michel, il m'a mis le texte en partition. C'est-à-dire qu'il avait inventé un système de signes qui, pour les acteurs, était la manière dont il fallait mettre les intensités sur les mots, sur les assonances, les dissonances, si le rythme était staccato, s'il était fluide, etc. Et c'était une manière, je me suis rendu compte au bout d'un moment, que finalement travailler par exemple prosodiquement, c'est-à-dire travailler la prosodie, c'était presque plus intéressant que de parler du sens aux acteurs, parce que c'était dans le travail prosodique que le sens se faisait en fait.
De la prosodie peut jaillir le sens.
Oui, et je me souviens la commise en scène aussi qu'on a fait avec Michel Vienaver, je lui avais laissé... Dans l'ordinaire, je lui avais laissé 3 semaines de table, enfin ce qu'on appelle à table, c'est-à-dire tous les acteurs réunis en lecture, et c'est lui qui dirigeait. Moi, je ne disais pas un mot, et il dirigeait uniquement de manière, il dirigeait uniquement la partition. Et c'était magnifique parce que quand après moi, je me suis mis à travailler, il n'y avait pas de problème de sens. Tout le monde avait compris ce qu'il fallait faire, enfin pas ce qu'il fallait faire, mais le pourquoi c'était écrit et le comment on allait le trouver, mais le pourquoi c'était réglé, quoi.
Puisque vous citez Michel Vienaver, dans ses écrits sur le théâtre, il écrit à propos de vous « On pourrait tracer une ligne de partage entre deux façons de mettre en scène. L'une, c'est de chercher à étonner et à éblouir. C'est le théâtre de l'effet. Tous les moyens possibles, et de préférence à la limite de l'impossible, sont combinés pour produire de l'effet. La représentation est une accumulation d'effets que le metteur en scène agence en frappant de plus en plus fort. C'est l'approche spectaculaire. » L'autre, c'est la méthode qui ne se préoccupe ni d'étonner, ni d'éblouir, ni de produire un effet, mais qui aborde un texte comme on aborderait un endroit inexploré, cherchant à en discerner les couleurs, les reliefs. La mise en scène n'impose rien, mais découvre, et l'effet en définitive se produit un peu comme la résistance inattendue d'un travail bien fait. Alain Françon a créé plusieurs de mes pièces et sans doute nous continuerons à travailler côte à côte parce que sa façon de faire, qui est de laisser l'effet se poser plutôt que de l'imposer, correspond à la mienne quand j'écris. D'où mon sentiment qu'il y a de moi à lui une façon juste de prendre le relais. Une pièce de théâtre est grosse d'un nombre illimité de mises en scène possibles dont aucune n'est la mise en scène juste. Mais il y a une façon juste d'aborder un texte et de le porter à la scène et c'est cette façon qui compte. C'est beau, hein, quand même.
Oui,
C'est un bel hommage.
Oui, c'est un bel hommage.
Il parle de couleurs et de reliefs.
Oui,
vous qui avez fait des études d'histoire de l'art, est-ce que
mais
ça
souvent,
revient
souvent c'est de l'archéologie. Hein. Enfin, l'intitulé de la licence, c'était « Histoire de l'art et archéologie ». Donc, c'est un travail d'archéologue par rapport à un texte. Il faut essayer d'en trouver les différentes couches. Oui, ou alors c'est, je sais pas comment on dit, vulcanologue, quoi. C'est-à-dire, il faut descendre, creuser, puis faire jusqu'à ce que le texte ait une nouvelle éruption, quoi. Et donc, alors tout à coup, il paraît tout à fait contemporain, alors qu'il a peut-être 2 siècles, quoi. Mais c'est ça qu'il faut. Ça, c'est l'essentiel, mais comment travailler ça? C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je travaille, je passe des mois sur le texte et sur ses alentours, c'est-à-dire sur tout ce qui peut me parler de ce texte. Je veux dire que ce soit que ce soit un livre de philo, que ce soit des peintures. Ben. Et puis, après, j'ai une théorie qui est assez simple, c'est de perdre le fil. C'est-à-dire que tout ce que j'ai amassé de connaissances, quand j'arrive avec devant les acteurs, ben, j'essaye de tout oublier, de perdre le fil, de façon à pas imposer un savoir... Je déteste les gens qui mettent en scène avec une vue surplombante et qui savent tout. Non. Il faut être horizontal et puis regarder comment c'est, quoi. Puis si on peut creuser, on creuse, mais voilà. Et donc, cette théorie comme ça du fil perdu, c'est, pour moi, c'est important parce que c'est, sinon, on peut que décliner son propre savoir face à des acteurs, ce qui n'a aucun intérêt, quoi. Et puis ça empêche de regarder les acteurs et les écouter surtout.
Pour reprendre ce que disait Michel Vinavert, pas d'effet de manche, pas de bluff, pas la volonté d'imposer un effet. Souvent, quand on parle de votre patte, Alain Françon, de metteur en scène, on parle de simplicité. Et vous-même, vous dites, la représentation doit être une forme scandaleusement simple. Ouais. Et pas l'art de la gonflette, de la crème chantilly dessinée. J'ai beaucoup aimé cette phrase, pour ça que je la reprends. Voilà, donc la forme scandaleusement simple, c'est pas tout à fait le fil perdu. De toute façon, on va venir à votre travail avec les acteurs dans un instant. Mais déjà, cette forme de la représentation scandaleusement simple, que voulez-vous dire? C'est du minimalisme?
Oui, en quelque sorte, mais c'est pas une volonté de départ. C'est une chose qui doit arriver. Ce qui est intéressant, en fait, c'est pas l'inquiétante étrangeté. Ce qui est intéressant, c'est l'inquiétante simplicité.
Qu'on va chercher dans le texte.
Bien sûr. Mais pour y arriver, c'est, quand je dis scandaleusement, c'est-à-dire que c'est une des choses les plus difficiles qui doit advenir, mais c'est la chose la plus difficile à faire advenir quand on met en scène. Parce que on a toujours trop d'idées ou toujours des idées qui, et puis le lendemain, on se réveille, on disait, ouais, non, mais c'est qu'une idée, c'est pas la peine de faire ça, quoi. Et donc, mais c'est pas une volonté de faire table rase, hein, c'est pas ça du tout, c'est simplement d'être toujours en mouvement, dans la recherche, mais toujours vers une, quand je dis inquiétante simplicité, c'est que, quand ça arrive, Michel, il avait un autre mot, il parlait d'évidence. Tout à coup, on cherche, on comprend rien, on fait des suppositions, on travaille une scène, elle veut rien dire, on comprend même pas pourquoi on l'a fait comme ça, et puis tout à coup, il y a trois mots qui se disent, qui changent tout, et tout à coup, la scène, elle devient évidente. Et là, on n'a même pas besoin de le dire. Enfin, tout le monde en est conscient, les gens qui regardent, les acteurs, le metteur en scène, tout le monde a compris que c'était évident. Et cette évidence, elle a sûrement à voir avec la simplicité.
Et c'est parce que vous n'avez pas toujours trouvé cette inquiétante simplicité ou cette évidence que vous avez parfois repris des pièces que vous aviez déjà mises en scène. Genre, fin de partie, c'est vous l'avez monté trois fois, Edda Gabler deux fois, Les Voisins deux fois, peut-être plus même, hein, j'ai peut-être oublié, Dans la compagnie des hommes deux fois, La Cerisée aussi. Pourquoi revenir sur les mêmes pièces? Le travail d'archéologie n'était pas assez creusé?
Oui, je pense que... Il y a des mises en scène dont je n'étais pas content, mais par exemple la Cerisée à la Comédie Française ne me convenait pas, le résultat final. Quand je l'ai remonté à la colline, c'est à cause de ça. Et quand je l'ai monté à la colline, j'étais très assez fier du spectacle, en fait, pourquoi pas le dire. Donc ça dépend des circonstances, mais je veux dire, par exemple, j'ai monté deux fois le Long Voyage vers la nuit de Jeanne O'Neill. Bah, la deuxième fois, c'était un approfondissement, mais c'était un approfondissement aussi parce que Françoise Morvan avait refait la traduction. Enfin, je veux dire, c'est lié à beaucoup de choses. Soit c'est lié à une nouvelle, si c'est une pièce étrangère, à une nouvelle traduction, ou... Quand j'ai monté la première fois Edda Gabler, comme c'était la première fois que je rentrais dans une pièce de répertoire de ce niveau-là, j'avais une réaction très, très incroyable. J'avais dit aux acteurs, voilà, on est dans un salon, mais j'interdis à tout le monde de s'asseoir. Bon, pourquoi? Parce que la formule des gens assis dans un salon me semblait tellement impossible à mettre en scène que je voulais pas, quoi. Donc on a fait ça, mais c'était bien. C'était à la fois stupide et intelligent, quoi. Enfin, c'était les deux choses, quoi. Et la deuxième fois où je l'ai monté, Voilà, j'ai pas eu peur. Tout le monde s'asseyait quand il voulait. J'avais plus peur de ça, quoi. Mais c'était la figure du salon qui me, voilà, qui m'avait fait penser à ce commandement aux acteurs.
Alain Françon, la mise en scène, c'est aussi une mise en espace. Le texte est premier, on l'a bien compris, la façon de décortiquer le texte est premier pour vous et vous relisez, vous lisez toute l'œuvre de l'auteur, vous lisez beaucoup de philosophie, vous lisez des essais sur le théâtre, peut-être autour. Mais après, il faut quand même arriver à le mettre en espace. Est-ce que dans cette mise en espace, je vais prendre un exemple concret, quand vous avez monté Fin de partie, vous avez lu Stanley Cavell, Philosophie des salles obscures. Donc il y a à la fois le travail sur le texte en amont qui a été utile pour vous, mais peut-être aussi un travail de réflexion sur la façon dont vous alliez le mettre en scène, vous alliez le représenter sur un plateau.
Oui.
On peut prendre un autre exemple, si vous préférez.
La question, elle cerne l'espace plutôt,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Bah, j'ai quand même la chance de travailler avec un des scénographes qui est quand même une des personnes les plus douées, Jacques Gabel. Et bon, c'est un compagnonnage qui dure depuis 30 ans, je sais plus. Et avec Courbet qui fait la lumière aussi. Donc, on a, c'est pas d'ailleurs une facilité, au contraire. On est toujours en train de batailler, de se dire des choses. Mais c'est formidable parce que, pour Fin de partie, par exemple, si je prends Fin de partie, d'ailleurs, c'est le même cas pour Godot et même pour Le premier amour qu'on va faire plus tard. J'ai toujours dit à Jacques qu'il faut absolument que le texte, c'est incroyable, il faut que le texte soit dans le décor. Donc par exemple, quand on a fait Fin de partie, les murs qui montaient très haut, il y avait tout le texte de la pièce sur les murs. Dans Godot, il est au sol. Mais ça produit quelque chose, c'est-à-dire que à force d'écrire et puis de suivre les didascalies et tout, ça fait une peinture au sol. Ça fait des traces et des traces. L'espace, pour moi, ça a toujours été. Je suis complètement dépendant de ça. C'est-à-dire que si j'ai pas. Jacques fait des maquettes. Il ne fait pas des maquettes en 3D, il fait des vraies maquettes. Même s'il y a un fauteuil, il fabrique le fauteuil, il fabrique tout. Tous les éléments. Donc, et c'est formidable parce que tant que je n'ai pas l'espace, j'ai toujours une idée vague. Mais par contre, je travaille énormément avec lui pour arriver à le trouver juste, pour venir à ce mot. Moi, je suis très dépendant de ça. Après, ce qui m'intéresse, c'est les accidents, quoi. Plus que. Là aussi, c'est comme. Je me souviens d'une image d'Edda Gabler, par exemple, parce qu'il y avait une guillotine, un rideau qui ferme l'avant-scène, dont on sert à chaque. Pour passer d'un acte à l'autre, par exemple. Et bon, il y avait un truc très précis. Et puis, quand la guillotine est descendue, Valadier, elle avait avancé trop sa chaise avant scène. Et tout à coup, la guillotine est tombée derrière. Et il restait avant scène, pendant le changement qui se faisait derrière, une chaise solitaire, bête. Et mon premier geste a été de gueuler. Et la deuxième, c'est de me dire, mais non, c'est génial. Elle est déjà morte. Puisqu'elle va mourir à la fin, ben voilà, la chaise est déjà vide. Donc c'est des choses comme ça qui arrivent aussi dans l'espace et qui sont... J'aurais pas pensé ça.
Est-ce que la peinture est une source d'inspiration pour reprendre les mots de Michel Vinavert encore ?
Ah oui, 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 bien sûr, mais on va sûrement travailler sur le chapeau de paille d'Italie avec Jacques et on essaye de regarder toute la peinture de l'époque, enfin du Second Empire, quoi. De regarder Manet, de retrouver des choses comme ça, quoi. Oui, ça nous inspire complètement. Enfin, on est toujours, même sur les costumes, quand je travaillais avec Patrice Cochetier, Patrice travaille plus maintenant, mais on était toujours en train de regarder les on parlait que de peinture et on cherchait les modèles. Oui, c'est très très important.
Vous parlez de ce compagnonnage avec Jacques Gabel, mais aussi avec la plupart des personnes de votre équipe technique, éclairage,
oui,
son,
bien sûr, oui.
Alain Françon. Ce travail en équipe, il se retrouve souvent, en tout cas, avec les acteurs. Vous avez très très longtemps et vous continuez de travailler avec les mêmes acteurs. Alors Dominique Valadier, qui se trouve être votre compagne,
oui.
Dominique Valadier bien sûr, mais aussi Carlo Brandt, Jean-Paul Roussillon, Serge Merlin, Valérie Dréville... Clovis Cornillac, Anouk Grimbert. Est-ce que vous diriez qu'ils forment une famille et que vous avez besoin de vous entourer de cette famille pour parvenir à ce que vous avez dans la tête?
Oui. Au départ, surtout parce que à un moment, je me souviens, la presse parlait même d'acteurs bondiens. Alors les acteurs bondiens, c'était Valadier, Cornillac, Carlo Brandt, Garanger, plein d'autres. Le théâtre de Bond nous imposait sûrement, j'aime pas dire le mot, un style de jeu, mais ça veut pas dire grand-chose en fait. Mais il y avait une marque là-dessus. Alors donc, il y avait cette famille-là, des acteurs qui travaillaient toutes les pièces de Bond, mais le réseau des acteurs avec qui je travaille est pas énorme. Mais c'est vrai que, par exemple, j'aime bien retrouver Anouk Grimbert quand elle me demande de venir travailler avec elle sur les textes de L'Art Brut. Mais j'aime bien aussi quand Michel nous fait l'adaptation française de Tourguenieff, du moins La Compagne. Et puis, je sais pas, par exemple, là, dans le spectacle de Doutet, je retrouve Valadier, mais ça fait 4-5 spectacles, j'ai pas travaillé avec elle. Et puis, s'additionne à ça, surtout, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire tous les jeunes acteurs que j'ai rencontrés quand je venais travailler avec eux, que ce soit à l'école du TNS ou ailleurs, quoi. Donc, par exemple, dans Marivaux, Suzanne Debecq, elle a crevé l'écran de, bon, c'est son premier spectacle et tout le monde a parlé d'elle et ne fait plus que parler d'elle et elle tourne maintenant sans arrêt, tout ça. Et c'était formidable qu'elle joue ce rôle. Mais en fait, il y a des acteurs avec qui je n'ai pas envie de travailler. Ou je ne pourrais pas travailler.
Alors qu'est-ce qu'ils ont de plus, les acteurs avec qui vous travaillez? On va le tourner comme ça plutôt qu'être désagréable pour les autres. Ou de différents?
Je crois qu'il y a une chose sur laquelle on a énormément travaillé. Je crois que je l'ai un peu abordé déjà, c'est-à-dire travailler le présent, c'est-à-dire être toujours dans l'instant. C'est une des choses les plus compliquées au théâtre. Parce que il y a toute une tradition comme ça, y compris d'ailleurs de gens qui ont traduit, par exemple, dans les années 50-40, il y avait des traductions des Dagabler où le texte était faux, mais tellement le traducteur voulait bien montrer la continuité psychologique du personnage. Or, quand on joue l'instant, c'est le contraire. C'est-à-dire, si on joue l'instant, il n'y a pas de continuité psychologique. On peut jouer une chose et son contraire. C'est ça qui est formidable à faire au théâtre. Parce que si on joue la continuité psychologique, le spectateur, il s'emmerde, il le sait, il sait d'avance ce qu'on va faire. Tandis que là, et si on essaye en plus d'être cohérent dans le travail qu'on fait, c'est magnifique. Mais c'est travailler l'instant, c'est la chose la plus dure. Et puis c'est ce que je disais aussi hier, c'est arrêtons d'interpréter. Beckett, par exemple, je relisais les textes de lui, il supportait pas une seconde qu'on interprète son texte, que des gens puissent dire qui était Godot, que des gens puissent dire pourquoi celui-là s'appelait Vladimir ou je sais pas. C'est pas d'interprétation, quoi. Mais produire un texte, parce qu'il y a de l'inconscient dedans, quoi, et que c'est quand même ça qui est important aussi.
Donc il faut que les acteurs et les actrices comprennent ça. Et acceptent et vous suivent dans ce travail-là.
Oui, oui.
Vous avez la réputation d'être un navigateur de silence, plutôt qu'un directeur d'acteur. De toute façon, le terme de directeur d'acteur ne vous convient pas. Donc, le navigateur de silence, vous le comprenez comment, Alain Françon?
Je pense que le metteur en scène, quand il doit prendre la parole, c'est pas du calcul, mais il faut absolument trouver les deux mots nécessaires. C'est pas la peine d'en trouver 25 ni 50. C'est pas la peine de faire du baratin, quoi. Il faut trouver le mot qui fait que tout à coup il y a un déclic, ou sur la situation, ou sur moi j'emploie jamais le mot personnage, donc sur la figure qui est en scène, ou sur mais c'est vraiment un problème de justesse là encore. Alors si on le trouve pas, ben on dit rien. Où on arrête et on fait une pause.
Ça veut dire que les acteurs, et c'est souvent ce qu'ils disent, ont une très grande liberté dans la contrainte que vous leur donnez, mais ont une très grande liberté de produire leur texte plutôt que de l'interpréter.
Ah bah oui. Une fois qu'on a vraiment laisser le terrain accidenté, mais qu'on sait à peu près sur quel terrain on est. Donc là, c'est formidable, hein, parce qu'il y a, je sais pas, Dréville disait par exemple que j'étais un des metteurs en scène les plus directifs, mais en même temps, c'est le contraire aussi, quoi. C'est-à-dire que, mais je pense que la liberté des acteurs passe par une certaine, contrainte. Mais la contrainte, c'est pas une contrainte imposée par quelqu'un qui a la vision, en surplomb de la pièce. Non, non, c'est juste quelqu'un à qui on a délégué l'autorité. Enfin, Antoine, il disait, Vitesse disait toujours que le metteur en scène, c'était jamais qu'un acteur qui s'était un peu éloigné et qui s'était retourné et qui regardait les autres, quoi. Il y a de ça aussi, quoi.
C'est ça, vous diriez qu'avoir été acteur, vous, aide à...
Moi, j'ai toujours l'impression, enfin, ce que j'aime pas, c'est exercer le pouvoir. D'ailleurs, quand on parlait de direction de théâtre, c'est pareil. Moi, le pouvoir, ça veut rien dire, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui dirigent des institutions et qui les dirigent pour, comment dire, c'est tout pour ma gueule, quoi, en fait, pour dire ça.
Pour dominer.
Oui, pour dominer. Moi, je pense que ça n'a aucun intérêt, quoi. Et que, moi, si je continue, c'est parce que je continue de commencer, quoi.
Vous avez une voix très discrète, vous êtes très modeste. Et en même temps, tout à l'heure, vous nous disiez que, bah, c'était avec des politiques, mais ça vous arrivait de gueuler.
Oui.
cette colère est une colère rentrée, c'est une colère qui accompagne cette apparente sérénité qui est la vôtre.
Je crois que comme metteur en scène, j'ai eu un moment un peu relativement violent avec tout le monde, que ce soit avec les acteurs, avec la technique, avec j'avais pas d'autre, mais c'était de la peur, je crois. Enfin, la peur, pas vraiment non plus, parce que j'ai toujours pensé que j'étais légitime dans le truc que je faisais, ma première manière d'être en répétition était relativement violente. Ça m'est arrivé beaucoup de taper dans des fauteuils, de casser des sièges, oui. Et puis, la psychanalyse aidant, et puis le travail aidant, j'ai acquis... tout à coup, un profond, le contraire, c'est-à-dire un profond respect des gens qui sont en face, et puis voilà, enfin, je veux dire, et donc, ça s'est calmé, ça s'est vraiment calmé, et tout à coup, ça m'a ouvert les yeux aussi, parce que je me serais pas supporté moi-même au début, mais après, ça allait.
Alain François, on arrive au terme de ces entretiens. Je voudrais juste prendre un peu de champ par rapport à l'évolution du théâtre. On est dans un monde saturé d'images, d'informations également. Pour des gens, et souvent des jeunes gens, hein, qui vont peu, voire pas du tout, au théâtre, que diriez-vous ? Pourquoi continuer d'aller au théâtre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va y chercher ? Est-ce qu'il a encore une place dans la société ?
Ben, je pense que c'est toujours important, quelqu'un qui prend la parole en face de quelqu'un d'autre qui est dans une salle, c'est un événement de toute façon. Enfin, cette prise de parole, c'est un événement. Quand il s'agit d'un texte cohérent, enfin, pas un texte politique, mais un texte cohérent. Après, je sais pas, parce que le théâtre, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce que vous dites, c'est-à-dire que... Bon, si par exemple je fais une mise en scène où je mets deux acteurs de profil par rapport aux spectateurs qui sont filmés par une caméra, donc et qui jouent de profil, qui jouent pour la caméra, et que leur image est restituée sur un écran face aux spectateurs, qu'est-ce que je fais là ? Je fais du théâtre ou je fais une série télé ? Moi, je fais pas de série télé. Enfin, mais c'est un... Je porte même pas de jugement, ça m'intéresse pas. C'est simplement un désintérêt total. Mais il y a beaucoup de formes théâtrales aujourd'hui qui... C'est comme si on avait perdu la métaphore et qu'on était toujours dans la métonymie ou dans je sais pas quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin bon, ça peut être spectaculaire, ça peut être très beau, ça peut être... Et puis j'ai pas de jugement, en fait, de valeur là-dessus. Je m'en fous un peu, quoi, mais ça m'intéresse pas. Donc, pour venir à la question que vous me posez, venir écouter, je pense que l'écoute, c'est important. Oui, venir écouter. Et que... Je pense que c'est... c'est le texte qui revient, quoi. Chaque fois, c'est le mot-clé. pour ce qui concerne ce rapport entre le spectateur et... C'est très étonnant. À Genève, je regardais là il y a 3-4 jours, puisqu'on joue en attendant Godot à Carrouge, il y avait plusieurs classes dans la salle. Même au début, je me suis étonné, je me suis dit, voilà, ça fait beaucoup. Leur écoute du spectacle m'a complètement surpris. Je fais exprès de m'asseoir au milieu d'eux, quoi, et de voir comment ils... C'est Beckett, c'est pas simple, c'est le spectacle, il est à la fois, je pense qu'il est à la fois tragique et en même temps hyper drôle, quoi, enfin les deux. Et j'étais très étonné de leur écoute, justement, de ce qui me semble peut-être pas va se produire dans d'autres lieux, quoi.
Alain François, en 2021, vous avez été grièvement blessé après une violente agression. Vous vous en êtes remis. On est heureux. Est-ce que ça a changé votre regard sur la vie ?
Oui. Oui, parce que tout ce que j'ai pu vous dire là, finalement, se résume à... Moi, le théâtre m'a fait découvrir l'autre. Et donc, même si j'ai employé le mot avec tout à l'heure, mais enfin, m'a fait découvrir l'autre et la possibilité d'avoir confiance en l'autre. Et que si l'autre n'est pas là, j'existe même pas. Et bon, c'est une agression très particulière, hein, que c'est quelqu'un qui arrive par derrière, qui tranche la gorge et qui s'en va devant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mots et pas de visage. Et... C'est comme si pendant quelque temps, ça m'avait fait perdre justement la confiance dans l'autre. Donc ça veut dire que pendant 6 mois de ma vie, j'arrêtais pas de me retourner quand je marchais dans la rue. Mais ça va, ça passe, c'est pas, ça va, tout va bien. Et puis pour revenir au théâtre, quand j'étais au procès, puisqu'il y a un procès aux assises... Je leur ai demandé, j'ai justement posé la question, c'est-à-dire je leur ai dit quand moi je fais mon métier, quand je répète, j'ai un texte, donc des mots, en face de moi il y a un visage humain, ça s'appelle un acteur, et là dans ce qui s'est produit ce jour-là, il n'y a pas de visage, et il n'y a pas de mots, donc quel sens ça a ? Je leur ai posé la question du sens.
Merci Alain François. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hélène Langlois et Michael Simon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.